Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous revenez de vacances, si vous êtes seulement de passage ou si vous êtes là régulièrement. Est-ce que, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, nous sommes venus pour écouter Dieu ? Et je relis juste ce verset que nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Et après plusieurs exhortations qui vont dans le sens de craindre Dieu, l'Ecclésiaste ou le Coélète poursuit. Et je vous propose de suivre avec moi le texte d'aujourd'hui.
Alors, ça capte pas.
Donc, le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 7. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose. Car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays qu'au profit de l'agriculture en se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent ? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Vous avez remarqué le changement de pronom dans ce texte. Au début de notre texte, nous voyons dans la continuité des versets qui précèdent, le Coélète s'adresse directement à ses destinataires. « Si tu vois », avant de revenir à un registre, au registre de départ en fait, où le « je » et le « il » dominent. Et ce sont en effet de nouveau des constatations que fait le maître à propos de ce qui est dérisoire dans cette vie. Et ce matin, ce sont deux thèmes en particulier qui nous intéressent. D'un côté, l'injustice sociale, et de l'autre, la richesse. Et les derniers versets de notre texte nous sont plutôt familiers, puisque le Coélète nous a déjà dit précédemment ce qui est bon pour l'homme. Manger, boire, goûter au bonheur. Ce refrain n'est pas là par hasard s'il revient plusieurs fois dans ce livre. Il y a une véritable invitation dans le livre de l'Ecclésiaste à se saisir de ce qui est bon et de ce qui vient de Dieu. Au milieu de ce qui est éprouvant, au milieu de ce qui est pénible, au milieu de ce qui est dérisoire, il y a une invitation à se saisir de ce qui est bon. Et il me semble que le message de notre texte pourrait se résumer ainsi. Tandis que le système peut être corrompu, on parle de ce système qu'on peut trouver dans la société, tandis que le système peut être corrompu et que la richesse fait parfois le malheur des hommes, profitons de ce que Dieu donne dans cette vie. Tandis que le système peut être corrompu et que la richesse fait parfois le malheur des hommes, profitons de ce que Dieu donne dans cette vie. Et il me semble que c'est le message de ce texte. Regardons d'abord quand le système ne fait pas le bonheur des gens. Et il y a justement un point du contexte que nous n'avons pas abordé jusque-là et qui explique le choix de certains thèmes dans ce livre de l'Ecclésiaste. Si nous avons admis que le Qohélète était présenté comme un maître de sagesse, à qui s'adresse-t-il en fait ? On n'a pas encore répondu à cette question en fait, jusque-là. Qui sont les premiers destinataires ? Qui a besoin de cette sagesse enseignée par le maître ? Il était d'usage à l'époque qu'un maître de sagesse s'entoure de disciples, et que ces disciples étaient en fait des jeunes gens destinés à diriger, destinés à gouverner. Et voilà pourquoi le Qohélète en vient à parler de politique, à parler des injustices ou encore de la richesse. Parce que ces jeunes gens, eh bien, devaient apprendre à gérer leurs biens autant qu'à bien diriger le pays. En même temps, la fin du livre nous apprend que le Qohélète est un sage qui a enseigné la connaissance au peuple. C'est ce que nous lisons en Ecclésiaste 12, verset 9. Ce qui indique que le livre de l'Ecclésiaste a aussi une portée plus large, plus générale. Et nous le voyons bien puisque depuis le début, le Qohélète nous parle de la condition humaine qui est commune à tous les hommes sous le soleil. Alors revenons à nos jeunes gens, les futurs cadres de la nation, à qui le Qohélète s'adresse probablement ici. Que doivent-ils observer ? Que doivent-ils regarder ? Eh bien, verset 7, « Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. » Ce thème de l'injustice sociale, le Qohélète en a déjà parlé au chapitre 4. Auparavant, il parlait de toutes les oppressions qui se faisaient sous le soleil. Et ici, il envisage une situation plus particulière. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, cela suppose qu'il existe peut-être des régions où ce n'est pas le cas. Donc si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, et si nous voyons effectivement cette oppression des pauvres qui s'accompagne nécessairement d'une justice qui n'est pas rendue, le Qohélète dit de ne pas trop s'en étonner. Et il y a une raison à cela. Pourquoi n'est-ce pas étonnant ? Pourquoi le pauvre ne parvient-il pas à obtenir gain de cause ? Eh bien, ici, cela nous est dit à cause de la structure hiérarchique, à cause de la structure pyramidale du pouvoir. Et nous pouvons aussi nous en rendre compte. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de situation où on vous a répondu « cela ne dépend pas de moi » ? Sous-entendu, cela dépend de la personne qui est au-dessus de moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation ? Ou bien on vous a dit « je dois en référer à mon supérieur ». On vous a déjà dit ça ? Vous souhaitez que les choses aillent vite, mais lorsque les uns dépendent des autres pour prendre des décisions, cela devient très vite plus compliqué. Et il suffit que tout en haut de la pyramide, la personne ne veuille pas s'intéresser à vous pour que vous ne soyez pas entendu. C'est vrai ou pas ? Nous avons envie de dire, cela aussi est dérisoire. Pour autant, le Qohélète ne rejette pas une telle organisation de la société, et c'est ce que nous voyons au verset 8. Mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Alors bien sûr, il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque, pour comprendre que dans cette époque où il n'y avait pas l'industrialisation qui permettait la production de masse, eh bien on mettait forcément l'accent plus sur l'agriculture, sur le travail des champs. Et le Qohélète regarde à l'intérêt collectif. Et il estime que malgré la corruption du système, il vaut mieux quelqu'un à la tête du pays. Dans un monde qui est marqué par le péché, nous ne devons pas nous étonner que le système hiérarchique soit corrompu, bien que ce soit révoltant pour nous. Pour autant, si quelqu'un dirige le pays, comme le relève Sylvain Romerowski, eh bien, cela évite l'anarchie. Voici ce qu'il écrit. « Le pouvoir tel qu'il est exercé est souvent source d'injustice et de frustration, mais on ne peut s'en passer. » On a besoin de cette hiérarchie dans la société pour qu'il y ait de l'ordre, pour que ce ne soit pas totalement l'anarchie, chacun qui fait ce qu'il veut. Après ce constat, et je suis passé assez vite parce que cela ne concerne que deux versets dans notre texte, après ce constat de l'injustice à l'égard des pauvres, eh bien le Cohélète en vient au sujet de la richesse. Et c'est ce que je vous propose de considérer maintenant, quand l'argent ne fait pas le bonheur des gens. Alors, vous m'accorderez qu'en tant qu'outil, l'argent est utile. Il est même nécessaire dans la vie. Qui pourrait le nier ? Mais dès lors que cet argent devient l'objet de notre quête dans la vie, nous devenons alors comme la personne qui est décrite au verset 9. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Nous tombons dans la futilité. Nous courons après l'argent parce que nous aimons l'argent. Et les riches veulent toujours être plus riches. Ils ont déjà ce qu'il leur faut, mais ils continuent d'amasser, d'accumuler. N'est-ce pas dérisoire d'en arriver là ? D'en vouloir toujours plus ? Parce qu'en réalité, c'est une quête sans fin. Celui qui aime l'argent nous est donc décrit comme un éternel insatisfait. Et nous entendons peut-être l'apôtre Paul dire à Timothée, en 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10, voici ce que Paul écrit à Timothée, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi. » Et se sont infligés beaucoup de tourments. Ici, Paul met en garde contre l'amour de l'argent, qui finit par nous éloigner de la foi en Dieu. Jésus disait déjà que l'homme ne pouvait servir à la fois Dieu et l'argent. Servir l'argent, en fait, c'est dérisoire. Être au service de l'argent, courir après l'argent, c'est dérisoire, futile. Le Cohélète évoque d'ailleurs plusieurs situations qui démontrent que la richesse n'a pas que des avantages. Et je vous propose de passer en revue ces différentes situations. D'abord, au verset 10, « Si nous avons beaucoup de biens, eh bien, nous aurons aussi beaucoup de profiteurs. » Ceux qui sont riches se posent inévitablement cette question. Est-ce que telle personne les fréquente par réelle amitié ou par simple intérêt ? C'est vrai que, voilà, si vous placez du côté de la personne qui est riche, vous allez vous poser ce genre de questions. Est-ce que telle personne est amie avec moi parce que, vraiment, il y a une sympathie véritable, ou bien, au contraire, c'est simplement par intérêt à cause de mon argent ? Oui, plus on a de biens, plus on a des profiteurs. Dans une version plus littérale, écoutez bien, le verset se traduit ainsi. « Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi. » Alors, j'aimerais vous poser la question, qui mange notre argent ? Qui profite de ce que j'ai durement gagné ? Alors, là, il y a peut-être des réponses qui fusent dans la tête. On sait très bien qui mange notre argent. Je donne un exemple, une situation. Celui ou celle qui veut louer un logement à Paris sait ce que cela doit lui coûter. Il travaille durement pour subvenir à ses besoins. Et finalement, au bout du compte, après avoir travaillé durement, avoir gagné sa vie, c'est un autre qui en profite, le propriétaire. Et c'est vrai que les locataires ressentent d'autant plus que l'argent leur échappe et qu'un autre en profite. Alors, je ne le dis pas de manière négative ici, mais simplement c'est un constat. On travaille durement pour payer parfois un loyer très élevé, et finalement, c'est un autre qui en profite. Autre inconvénient mentionné au verset 11, le riche court le risque, même si nous n'allons pas généraliser, mais il court le risque de mal dormir. Plus on possède de biens, plus cela peut causer du souci. Le travailleur modeste qui travaille seulement à la sueur de son front n'a pas ce genre de préoccupation. Il peut dormir sur ses deux oreilles. Aujourd'hui, certains agriculteurs sont mieux équipés que d'autres. Mais parfois, ce n'est pas à leur avantage. Et récemment, j'entendais parler de ces vols d'appareils de guidage sur les tracteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un matériel qui coûte une dizaine de milliers d'euros. Ces vols qui sont commis durant la nuit. Et vous pouvez imaginer l'inquiétude que cela génère. Et les nuits peu tranquilles qui s'en suivent. Et plus notre bien est précieux, plus nous avons ce genre d'inquiétude, n'est-ce pas ? Et si quelqu'un nous le volait ? Cela nous fait peut-être réfléchir avant l'achat d'un bien. Est-ce que cela va susciter chez moi plus d'inquiétude ou est-ce que je pourrais dormir tranquille ? Troisième situation que le Qohélet qualifie de terrible calamité. Il arrive, verset 12, que les richesses conservées par un homme fassent son malheur. Pensez à telle personne avare qui ne dépense pas un sou, qui préfère épargner et amasser. Peut-être que vous en connaissez dans votre entourage. Pensez à l'oncle Picsou, qui baigne littéralement dans son or, parce qu'il ne veut pas dépenser un seul sou. Pensez encore, une autre référence littéraire, à Harpagon, si vous avez lu L'Avare de Molière. Harpagon qui avait tellement peur qu'on lui vole son argent caché dans son jardin. Les richesses conservées par un homme font plus son malheur que son bonheur dans ces cas-là. Et le risque de perte est réel. Et c'est ce que nous allons voir au verset 13. Le malheur pour le riche, c'est de tout perdre. C'est de perdre tout ce qu'il avait amassé peut-être par un dur labeur, peut-être par le travail de toute une vie. Par une imprudence qui ne nous est pas détaillée, l'homme riche n'a plus rien à léguer à son propre fils. C'est une terrible affaire. Terrible parce que nous lisons au verset 14 qu'il partira comme il est venu. Retour à la case départ. Comme lorsqu'il était venu au monde, sans rien. Au terme de sa vie, il ne reste plus rien du fruit de son labeur. Est-ce que vous vous rendez compte de la perte ? Si cela devait nous arriver, celui qui met son espoir dans l'argent a de quoi désespérer dans une telle situation. Et combien le bilan est affligeant ? Regardez le verset 16. Ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Oui, de l'amertume, parce que on se dit, j'ai travaillé pour rien, finalement. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Si le Qohélet évoque toutes ces situations, c'est bien évidemment pour montrer à ses destinataires, et peut-être à ces jeunes gens aisés, que se confier dans sa richesse et dans ses biens, c'est illusoire. L'argent est utile, comme je le disais plus tôt, mais il cause aussi bien des tracas. Il ne fait pas toujours le bonheur des gens, comme nous le dit le Qohélet. Et en avoir conscience permet d'être sage dans son rapport à l'argent. Et avant d'en arriver à la conclusion du maître, réfléchissons juste un instant au rapport que nous avons avec l'argent. Sommes-nous de ceux qui aiment l'argent et qui considèrent qu'ils n'en ont jamais assez ? Sommes-nous de ceux qui courent après l'argent ? Bien sûr, nous n'allons pas le dire ouvertement à l'Église. Mais en ce moment, l'examen de soi se fait devant Dieu. Nous arrive-t-il d'avoir le sommeil troublé à cause de ce que nous possédons ? Sommes-nous conscients que nous pouvons tout perdre ou perdre beaucoup à cause d'un mauvais investissement? Ce matin, le Seigneur veut peut-être mettre la lumière sur ce qui est dans notre cœur, afin de débusquer l'idole qu'est l'argent. Et avec toutes ces constatations, nous pourrions nous dire que la richesse apporte plus de problèmes qu'autre chose. Mais le Qohélète ne tire pas pour autant la conclusion qu'il vaut mieux être pauvre. Vous avez remarqué, il ne dit pas ça. Mais sa conclusion nous ramène une fois de plus à Dieu. Regardons à présent quand Dieu fait goûter au bonheur. Et je relis le verset 17. « Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, nous y voilà, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. » Pour la quatrième fois dans ce livre, le Qohélète affirme que ce qui est bon pour l'homme, c'est de profiter des plaisirs simples de la vie. Manger, boire, goûter au bonheur. Se faire plaisir d'autant plus qu'on s'est donné de la peine dans son travail. Ce bonheur de courte durée, bien sûr, ne supprime pas notre condition misérable et frustrante. Mais pour autant, le bonheur est là. Un bonheur donné par Dieu. Un bonheur donné par grâce. Et vous pensez bien que l'homme qui est décrit dans les versets précédents et qui s'inquiète constamment pour ses biens ne sait plus profiter des plaisirs simples de la vie. Ses chagrins, ses souffrances, son amertume ont remplacé le bonheur que Dieu donne pourtant à l'homme. La dernière fois, je vous l'avais déjà demandé. Savez-vous profiter de ces plaisirs simples de la vie? Savez-vous les apprécier comme des dons de la part de Dieu? Et retenez bien ces quelques mots au verset 17, c'est là sa part. C'est là ta part dans cette vie de profiter de ce que Dieu donne. C'est ta part. Prends-la. Profites-en. Ne gâche pas ta vie à être inquiet pour des biens matériels, mais prends ce que Dieu te donne. Le boire et le manger. Rien que ça déjà. Et voici une perspective plus positive au sujet de la richesse. Parce que, encore une fois, je le répète, le Qohélète ne nous dit pas qu'il vaut mieux être pauvre, mais il nous dit, en fait, au verset 18, « En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. » Oui, la richesse est aussi un don de Dieu. Alors qu'ajouter à cela? À certains hommes, et nous qui sommes en France, nous ne sommes pas les plus à plaindre, Dieu donne des richesses et des biens. Pour prendre un exemple récent, Damaris et moi, nous reconnaissons que notre logement, bien qu'on ne l'ait pas acquis, on ne l'a pas acheté, mais notre logement à Saint-Maur est un précieux cadeau de Dieu. Et nous en profitons. Et chacun d'entre nous aurait un exemple à donner de ce que Dieu a pu vous donner. Si Dieu nous donne tout cela, mes amis, c'est pour pouvoir en profiter. Voilà la juste manière d'envisager la richesse, comme un don de Dieu, et non comme un Dieu à servir. Et je trouve que le dernier verset de notre texte nous rappelle combien Dieu est bon. Je relis ce verset. « Ainsi cet homme ne s'apesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. » Oui, nous le savons et nous entendons le discours du Qohélète depuis le début. La vie est dure, elle a quelque chose de frustrant, qui est décevant, qui est dérisoire, mais Dieu est bon. Et la joie qu'il donne aux êtres humains nous le montre. Et il la donne à ses enfants comme aux autres. Et cette joie nous permet de ne pas nous apitoyer sur notre sort ou sur les difficultés de la vie. Vous vous rendez compte que manger simplement un bon plat nous permet d'oublier un petit peu les soucis de la vie. Cette joie, c'est Dieu qui nous la donne. Est-ce que nous avons conscience de cela ? Et même si cela ne dure qu'un instant, parce qu'on ne mange pas indéfiniment, même si cela ne dure qu'un instant, il est rassurant de savoir que dans nos moments de joie, c'est Dieu qui nous tient occupés, pour que nos pensées ne broient pas que du noir. Au prochain repas, c'est-à-dire tout à l'heure, pensez à cela. Si cela vous apporte de la joie, bien sûr. Parce que parfois, c'est vrai qu'un repas peut ne pas nous apporter de la joie, ça dépend s'il a été bien cuisiné ou pas. Mais de manière générale, si on prend plaisir à cela, pensez à cela. Que dans nos moments de joie, c'est Dieu qui nous tient occupés pour que nos pensées ne broient pas que du noir. Parce que la vie est déjà suffisamment difficile. Nous ne pouvons qu'adorer et remercier un Dieu si prévenant, qui se soucie de notre joie et qui est en même temps aussi source de notre joie. Les notions de pauvreté et de richesse sont relatives, parce que nous sommes d'une certaine façon toujours plus pauvres ou plus riches que les autres. Du côté des pauvres ou des petites gens, nous serons peut-être victimes d'un système hiérarchique corrompu, qui n'est pas en notre faveur. Et du côté des riches, nous risquons de cumuler bien des tracas à cause de nos biens. Considérons que malgré ces désagréments dans la vie, malgré le dur labeur auquel nous nous soumettons, ne serait-ce que pour gagner notre vie, Dieu nous appelle ce matin à profiter de ce qu'il donne. Hormis les aspects négatifs de la vie, j'espère que vous retiendrez du livre de l'Ecclésiaste, que nous y trouvons un encouragement à profiter des bonnes choses qui nous viennent de Dieu. Ce n'est pas qu'un livre pour nous faire déprimer ou pour nous faire comprendre que la vie est difficile, mais c'est aussi un livre qui nous invite à profiter de ce que Dieu donne. Et dans sa grâce et en Jésus-Christ, et nous l'avons rappelé aussi tout à l'heure pendant la louange, Dieu nous a donné bien plus, et notamment l'espérance d'une joie éternelle. Si nous vivons sur cette terre des joies éphémères, nous connaîtrons une joie éternelle. Et cette joie, c'est d'être à ses côtés pour toujours. Cette joie, elle est pour celles et ceux qui placent leur confiance en Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous soupirons après une telle joie, une joie parfaite. Mais en attendant, Dieu nous bénit déjà. Dieu nous bénit déjà par le simple fait de pouvoir profiter des biens qu'il nous a accordés. C'est une joie éphémère, c'est vrai, mais bien réelle, pour laquelle nous voulons exprimer notre reconnaissance. Et j'aimerais vous inviter justement à penser, tout à l'heure, Stéphane nous avait invité déjà à penser à ces choses pour lesquelles on est reconnaissant au Seigneur. Mais cette fois-ci, plus précisément, j'aimerais que vous puissiez penser simplement au simple plaisir de la vie. En sachant que c'est Dieu qui vous donne cela. Et de vous dire que vous pouvez en profiter pleinement, à fond, parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Pensez peut-être durant cette semaine, déjà, à ces petits plaisirs de la vie auxquels vous avez goûté. Peut-être c'est simplement se promener dans la nature et contempler la création de Dieu. Cela suffit. Pensez à cela. Et prenons un temps pour dire merci à notre Dieu. Tu nous dis dans ta parole qu'il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil. Pendant les jours que Dieu lui donne à vivre, c'est là sa part. Et nous voulons saisir effectivement cette part, Seigneur, qui nous vient de toi. Une part que nous recevons dans ta grâce, sans que nous puissions le mériter. Nous qui t'avons maintes fois désobéi, nous qui sommes pécheurs, nous qui nous sommes révoltés contre toi. Mais pourtant, cette part, tu la donnes bien à l'être humain. Et tu nous apprends, par ce texte notamment, à pouvoir en profiter. Tu nous demandes d'en profiter, parce que ne pas en profiter, forcément, nous expose à toutes sortes de malheurs, à toutes sortes d'inquiétudes, à toutes sortes de questions que nous pouvons nous poser et qui ne t'honorent pas. Mais pourtant, tu donnes, Seigneur, et tu donnes généreusement. Et nous voulons considérer tous ces plaisirs de la vie si simples que tu nous accordes et qui nous permettent de ne pas nous appesantir sur notre vie. On te remercie pour cela, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et d'autant plus, Seigneur, nous recevons cette grâce par Jésus-Christ, parce que nous t'appartenons et que tu prends plaisir à donner à tes enfants. Tu prends plaisir à ce que nous puissions en profiter. Et nous voulons nous souvenir qu'effectivement, si tu nous as placés sur cette terre, et si tu nous as entourés de toute cette création et de tout ce que nous pouvons posséder ici-bas, c'est pour que nous puissions en profiter. Alors merci pour cela, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons, et cela nous suffit. Et nous te bénissons pour ça. Au nom de Jésus. Amen.